sa vie en danger en se mettant en grève de la faim. Nous, en tant que comité pour le respect des libertés et droits de l'homme en Tunisie, on exige sa libération immédiate parce que aucune charge n'est valable pour Mme Becerrine pour qu'elle soit en prison. Sa détention est une détention politique et on tient responsable le président de la République, Kais Saied, de toute dégradation et tout préjudice contre la santé de Mme Siem Becerrine.
Mouyedine Cherbib avec Ouda Ibrahim. Il est 5h42 à Tunis.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre un reportage en Afrique du Sud où une association qui traduit de nombreuses œuvres en braille attend toujours une loi exemptant les droits d'auteur pour la conversion en braille. Objectif, donner un accès littéraire plus large aux déficients visuels. Nous sommes au Togo également pour le dossier Afrique Éco où le secteur de la pêche tend à se développer. Notre invité, je vous le disais, Didier Péclard, à quelques heures désormais de la visite d'État en France du président angolais João Lourenço. Vous retrouverez Maman à la fin de cette demi-heure, mais tout de suite, place au sport. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Nemo.
Avec du football pour commencer, malgré le report annoncé de la compétition, la CAF a maintenu le tirage au sort du CHAN 2025.
Le championnat d'Afrique des Nations, Coupe d'Afrique des joueurs évoluant sur le continent africain. Il se disputera en août 2025 au lieu de débuter le 1er février comme prévu initialement. Mais qu'à cela ne tienne, la CAF a quand même organisé le tirage au sort de la phase de groupe à Nairobi au Kenya. Le Sénégal, tenant du titre, a été versé dans le groupe D avec le Congo, le Soudan et le Nigeria. Côté pays organisateur, les Kenyans joueront dans le groupe A contre le Maroc, l'Angola, la RDC, la Zambie. Autre pays hôte, la Tanzanie, elle est logée dans le groupe B avec Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la Centrafrique. Enfin, dans le groupe C, les Ougandais n'ont pour l'instant que deux adversaires connus sur quatre, la Guinée et le Niger. Et le sélectionneur adjoint du MENA, Hassan Idebarkiré, donne son sentiment.
Je pense que c'est un groupe assez équilibré. Tout dépendra de la préparation pour aborder ce tournoi parce qu'il y a 6 mois encore devant nous. On doit travailler et on doit se préparer en conséquence. Surtout que ça sera une poule à 5. Donc il y aura 4 matchs d'abord pour espérer se qualifier au second tour. Nous sommes conscients de la tâche. D'abord, il y a un pays organisateur, l'Ouganda. Ensuite, il y aura la Guinée-Conakry. L'Ouganda, c'est un pays habitué à cette compétition. Bon, la Guinée-Conakry, moins. Moi, je pense bien qu'on aura notre partition.
Le Niger qui connaîtra ses adversaires manquants dans les semaines à venir à l'issue de nouvelles qualifications réduites qui devraient concerner notamment l'Égypte et l'Algérie, forfait de la phase initiale d'éliminatoire.
Un mot de handball également Antoine avec le mondial masculin et l'Égypte, championne d'Afrique en titre qui fait une entrée en force.
7e de la dernière édition, les Pharaons ont réussi leur entrée en lice en dominant largement l'Argentine, 39 à 25, quart de finaliste des JO de Paris. Les Égyptiens poursuivent donc sur leur lancée et viseront une nouvelle victoire vendredi sur Bahreïn dans le tour préliminaire. Lourde défaite en revanche pour les novices guinéens, écrasés 40 à 23 par les Pays-Bas. Ce jeudi, suite de ce mondial masculin avec à Herning au Danemark, Italie-Algérie à 17h TU et Tunisie-Danemark à 19h30 temps universel. Tandis qu'à Zagreb, le Cap-Vert fera son entrée en lice contre l'Islande, un adversaire de taille, reconnaît le sélectionneur capverdien Jorge Rito.
L'Islande est une des meilleures nations mondiales. Ses joueurs évoluent dans les meilleurs clubs. C'est donc un test difficile pour nous. Mais c'est aussi une bonne occasion de montrer ce que nous savons faire. Si l'équipe nationale du Cap-Vert veut se développer et valoriser ses joueurs, c'est précisément lors de ces matchs que l'occasion se présente. Nous allons donc aborder cette rencontre avec toute la volonté et le courage nécessaires pour remettre en cause le statut de favori de l'Islande. Avant un premier match de championnat du monde, c'est naturel d'être un peu nerveux. Cela arrive dans n'importe quelle compétition. Mais nous sommes convaincus que nous pouvons faire les choses correctement, que nous honorons le nom du pays et que nous sortirons certainement de ce championnat beaucoup plus fort que nous n'y sommes entrés.
Jean-Gérard Rito avec Marco Martins, Islande Cap-Vert, coup d'envoi 19h30 temps universel.
Et on termine avec du tennis et avec Hans Jaber qui se hisse au 3e tour de l'Open d'Australie.
Sans perdre de temps, 1h27 à peine sur le court face à la Colombienne Camila Osorio. Victoire 7-5-6-3 de la Tunisienne pour qui la marche va s'élever grandement au prochain tour. Jaber affrontera l'Américaine Emma Navarro, 8e joueuse mondiale.
Merci Antoine Grenier. On vous retrouve tout au long de la matinée pour les sports.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Les principaux titres de ce jeudi 16 janvier 2025. Un accord pour un cessez-le-feu, une libération de prisonniers palestiniens et une libération d'otages israéliens après 15 mois de guerre et une petite semaine d'intenses pourparlers. Israël et le mouvement armé du Hamas se sont mis d'accord hier en fin de journée. L'accord entre en vigueur dimanche pour une durée de 6 semaines. Il sera suivi par les 3 pays médiateurs, Égypte, Qatar et États-Unis. La Russie a lancé hier près de 120 missiles et drones contre le réseau énergétique ukrainien. Ces frappes interviennent au lendemain de la revendication par l'Ukraine de l'attaque la plus massive sur le sol russe depuis le début de la guerre qui a visé, selon elle, des sites industriels et militaires dans plusieurs régions. 5h47 ici à Paris, tout de suite le reportage Afrique. En Afrique du Sud, où une association milite pour donner accès aux déficients visuels du pays à une plus large offre culturelle et notamment littéraire. Le combat de Blind South Africa, obtenir l'exemption des droits d'auteur quand il s'agit de contenus adaptés, de braille par exemple. Parce que selon la loi, pour convertir un livre en braille, il faut systématiquement en demander les droits d'auteur. Cela coûte cher et cela prive ainsi les déficients visuels d'accès à de nombreuses œuvres. Si une nouvelle loi était censée appliquer cette exemption, son processus est à l'arrêt depuis des années, au grand désarroi de l'association. Reportage, Valentin Hugues.
Ici, nous avons une tablette en métal avec un stylet. C'est comme ça qu'on écrivait en braille à l'époque. Ensuite, nous avons cette petite machine manuelle, mais elle est trop vieille. On ne l'utilise plus aujourd'hui.
Aujourd'hui, ces anciennes machines à écrire en braille sont des pièces de musée. Ofense Manyane nous emmène dans l'atelier de l'association.
Cette machine imprime 1000 pages par heure.
Une grosse machine connectée à un ordinateur, les pages en braille sortent les unes après les autres.
Là, par exemple, c'est un livre politique pour le Botswana. On imprime pour toute l'Afrique, pas seulement pour l'Afrique du Sud.
Une activité perturbée par les droits d'auteur, nécessaire à chaque conversion en braille. Christo de Clercq, président de l'association.
9 fois sur 10, nous n'avons pas les droits et nous ne pouvons pas convertir. Ce n'est même pas qu'on nous les refuse, mais dans 90% des cas, ils ne se donnent même pas la peine de répondre à notre demande de droits.
Puis vient l'espoir après des années de combat. Un nouveau projet de loi sur la protection des œuvres stipule que pour une conversion en braille, il n'y a plus besoin de demander les droits. Seulement, c'est le blocage politique. Le projet de loi enchaîne les allers-retours entre le Parlement et le Conseil constitutionnel depuis 2017.
La section 19D stipule exactement ce que nous avons toujours demandé. Mais la loi n'a toujours pas été promulguée car les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur d'autres points de cette loi. Et nous, nous sommes les otages de ces désaccords.
Je suis Jace Nahir, le PDG de Blind SA. Seulement 0,5% des œuvres sont disponibles en contenu accessible et automatiquement, ça réduit notre accès à l'éducation.
Quand j'étudiais l'espagnol, par exemple, j'ai demandé la conversion d'un livre très important, mais nous n'avons pas réussi à obtenir les droits. Résultat, j'ai dû abandonner mes études d'espagnol.
8 ans donc que Blind South Africa milite pour que cette loi soit enfin signée, pour convertir n'importe quel ouvrage en braille en toute liberté, sans en demander systématiquement les droits d'auteur. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Le dossier Afrique économie du jour au Togo, pays consommateur de poissons, plus de 100 000 tonnes en 2022, mais seule une maigre part est produite localement. Pour faire évoluer les choses, 2 milliards de francs CFA devaient être investis l'année passée et certains acteurs n'ont pas attendu pour se lancer dans l'aventure. C'est le cas dans le petit village de Nangbeto, où l'on trouve la plus grosse ferme d'élevage de poissons du pays, Lofty Farm. Plus de 300 personnes y travaillent jour et nuit. Peter Sassou Dogbe s'est rendu sur place.
Après un premier essai dans la banlieue est de Lomé, Pierrot Akakbovi, transitaire de formation, décide d'aller s'installer sur le site du barrage hydroélectrique fin digue de Nangbeto.
Bruyère, la profondeur et tout ce qui accompagne la qualité de l'eau et choses de l'environnement.
C'est plus spacieux aussi.
C'est plus spacieux. Le barrage de Nangbeto fait 180 km².
12 000 hectares, dont 2 à 6 hectares en terre ferme, sont exploités. Une profondeur conséquente de l'eau, comprise entre 5 mètres et 20 mètres, le lieu est bien trouvé. Il y produit des aliments pour la consommation des poissons. Ce jour-là, le moulin tourne, on est à la production des aliments. comme il est sur la machine, pour moudre un mélange de farine de blé, de maïs, de soja, de la sonde, du manioc sec et des asticots.
Des fois, bon, s'il n'y a pas les coupures de laissage, on fait 230, 250, mais si les machines ont des problèmes, des fois ça n'atteint pas comme ça.
Dehors, des bacs au sol contiennent des milliers d'alevins qu'il faut nourrir et oxygéner. Nicolas surveille. Un long processus pour arriver au gros poisson d'au moins 500 grammes. Pierrot a pas connu le promoteur.
Nous sommes à plus de 13 tonnes de nourrissage par jour. Vous imaginez, vous le prenez par jour. Avec un truc moyen de 800 francs, vous voyez ce que ça fait. C'est plus de 10 millions qu'on jette dans l'eau chaque jour.
Le Togo a besoin de 6 à 7 000 tonnes de tilapia chaque année. Et Pierrot Akakovi souhaite apporter sa pierre à l'édifice.
Nous sommes aujourd'hui à près de 30-35% de production. Et c'est ça qu'on a fait en 2024. Donc cette année, nous sommes en train de vouloir aller au moins à 50% de ce que ça va faire. Ça voudrait dire qu'on sera tout de 3500 tonnes cette année.
3500 tonnes, c'est l'objectif à atteindre en 2025. Pour l'instant, l'Artifarm n'exporte pas ses produits. Peter Sassou-Doré, de retour de Nambuto, RFI.
Et le dossier Afrique Économie à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. On vous en parle depuis hier. Le président angolais João Lourenço est attendu ce jeudi en France pour une visite d'État de 2 jours. Il doit être reçu ce matin par son homologue Emmanuel Macron. Pour parler de tous les aspects de ce séjour, notre invité est Didier Péclard, professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Genève. Christophe Boisbouvier lui a notamment demandé si João Lourenço ne commençait pas à se lasser de faire médiation pour pas grand-chose entre ses homologues rwandais et congolais. Extrait.
C'est possible, effectivement, mais je crois qu'en même temps, c'est un enjeu très important pour l'Afrique. Et en tant que président de l'Union africaine, ce serait d'autant plus important d'arriver à obtenir un accord. Et en même temps, je pense que d'obtenir un succès, ce serait vraiment quelque chose qui lui donnerait une stature internationale importante et qui lui permettrait aussi de s'extraire des difficultés politiques et économiques à l'intérieur du pays. Donc je pense plutôt qu'il continuera.
Est-ce que João Lourenço a un intérêt politique ou économique interne au fait qu'il y ait la paix entre le Congo et le Rwanda?
Pas directement, je pense, mais l'instabilité à l'est de la RDC peut avoir des effets négatifs sur un des projets phares actuels, qui est le fameux corridor de l'Obito, dont on a beaucoup entendu parler lors de la visite de Joe Biden récemment en Angola. Et là aussi, bien sûr que la stabilité est importante pour la poursuite de ce projet.
Alors, le corridor de l'Obito est un enjeu économique très important. Et Joe Biden, le président américain, l'a souligné lors de sa visite sur place le 2 décembre dernier. Est-ce à dire que l'Angola va s'éloigner de la Chine au profit d'une alliance avec les Occidentaux, comme les États-Unis et la France ?
Je crois que ça fait partie d'une stratégie de long terme, en fait, que des pays comme l'Angola poursuivent. Les régimes angolais sont passés maîtres dans l'art de jouer leurs alliances respectives les unes contre les autres. Et je crois que le cas du corridor de l'Obito s'inscrit tout à fait dans cette stratégie-là. C'est un bon exemple, je crois, de la façon qu'a le régime angolais de s'allier alternativement plutôt du côté occidental, plutôt du côté chinois, pour maintenir la pression sur ses différents alliés.
Entretien entre Didier Péclard et Christophe Boisbouvier sur cette visite d'État angolaise en France aujourd'hui et demain, à retrouver en intégralité dans 1 heure sur nos antennes et sur RFI.fr. Allez, quelques minutes avant le début d'RFI Matin et pour refermer cette deuxième demi-heure africaine, on retrouve l'humeur de Maman. Maman au Gondwana aussi, la lutte des classes est terminée depuis bien longtemps.
Oui, il faut arrêter de se faire des illusions, la lutte des classes est finie, les riches ont gagné. Et oui, ça fait longtemps que la lutte finale a donné son verdict, ça fait longtemps que les riches ont soulevé les pauvres par-dessus leur tête, comme dans le MMA, pour les balancer très fort sur le sol, KO avant même que le combat commence. Et oui, la lutte des classes est terminée, finie, capoute. On est passé à autre chose sans même qu'on s'en rende compte. On est passé de la lutte des classes à la lutte des classes d'école. Ah oui, mes amis, c'est là-bas que ça se passe depuis très longtemps. La défaite des pauvres est actée, consommée, et sa perpétuation se joue dans les salles de classe. Tu ne comprends pas? Tu n'es pas d'accord? Ok, regarde comment ça se passe en très démocratique république. Chez nous, on ne parle pas de riches et de pauvres, hein. Non, chez nous, il y a les en haut de en haut et les en bas de en bas. Au milieu, il y a rien. C'est les en haut de en haut qui sont au volant du pays. Ou plutôt, c'est notre leader bien-aimé qui tient bien les commandes de l'avion Gondwana, les uns en première et business class, et tous les autres, même pas en classe éco, même pas dans l'avion, tous en bas, claqués au sol par la pauvreté, la classe populaire, les en bas de en bas, le nez toujours en l'air pour regarder l'avion aller et venir, parce que le billet est trop cher pour eux, et parce qu'ils n'ont même pas de passeport. Les uns, c'est-à-dire les en haut de en haut, prenant l'avion pour aller loin là-bas, scolariser leurs enfants dans les meilleures écoles du monde, ces écoles où les classes ne sont pas en surnombre, ces classes où on ne fait pas deux ou trois shifts dans la journée, comme en Gondwana City, notre belle capitale, où les élèves font cours de 7h à 10h par ordre alphabétique, d'autres viennent de 10h30 à 13h30, et le dernier groupe de 14h à 17h dans la même classe, sur les mêmes bancs, parce que il n'y a pas assez de place. Non, là-bas, dans les meilleures écoles du monde, les enfants d'en haut sont dans des classes où les élèves se comptent sur les doigts de la main, hein, apprennent avec les meilleurs profs, les meilleurs manuels et les meilleurs outils pour avoir les meilleurs diplômes afin de revenir au Gondwana, remplacer leurs parents en haut de en haut aux commandes de l'athlète très démocratique république. Pendant ce temps, les enfants d'en bas se débattent dans les écoles gondwanaises avec leurs classes claquées au sol, comme disent les jeunes, avec des profs et des manuels aussi claqués au sol pour obtenir des diplômes claqués au sol, reconnus seulement en très démocratique république. Pendant que les uns sont sûrs de devenir PDG, banquier, financier, ingénieur, chirurgien, maître du monde, les autres rêvent de devenir footballeur, chanteur, influenceur. Et en attendant, ils font des vidéos sur TikTok. Elle est terminée, la lutte des classes. Les riches ont gagné. À lundi.
À lundi, Maman, et demain, c'est l'humeur de Charlotte Tamac que vous retrouvez à la même heure, 5h59, ici à Paris. C'est la fin de cette deuxième édition d'Afrique Matin. Merci à Pauline Berthélémy à la réalisation, à Vincent Dublange à la rédaction en chef. Dans une minute sur RFI, le début d'RFI Matin, 6h-9h, heure de Paris, avec Andréane Mellard.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Togo, 2025 sera marqué par le 20e anniversaire de l'accession au pouvoir de Fornia Simbé, l'occasion pour quatre partis de l'opposition et le Front Citoyen Togo Debout de réclamer une alternance politique. Ce scénario est-il réalisable?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Grandir en France à l'ombre de Daesh. Une femme raconte comment le djihad a entièrement détruit sa famille, en enrôlant notamment ses frères. Une survivante qui a néanmoins reconstruit sa vie.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.